Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Hello. Il est 9h40 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans un nouvel Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Aujourd'hui commencent à Tours les 12e assises du journalisme. Foncez en train, en voiture, à vélo, débrouillez-vous, l'entrée est libre. Ça se finit samedi avec un grand, grand salon du livre. Une foule de débats, de projections, d'expos, de remises de prix très attendues. Trois générations de journalistes réunis, une foule de médias représentés. Et vous allez voir, c'est très varié. Et sur la table, tous les sujets qui fâchent, tous les sujets qui brûlent, bref, qui nous donnent envie, à vous et à nous, de nous lever le matin pour faire avancer les choses. Cet après-midi, des plumes et des patrons de presse marocains, tunisiens, égyptiens et algériens débattront à 14h. Parmi eux, Omar Belouchet, fondateur et directeur du quotidien El Watan, journal qui rugit en Algérie son indépendance depuis 1991.
L'Instant M, Sonia De Villers, sur France Inter.
Bonjour Omar Belouchet.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Ravi d'être à nouveau avec vous.
Mais oui, parce que vous étiez notre invité il y a
tout
deux
fait,
ans. On
absolument.
S'était promis de se revoir.
Voilà. Je suis
on avait encore
de
mille questions absolument. À vous poser. Et merci aux Assises du journalisme de Tours et à Jérôme Bouvier.
Bah, je le rejoins tout à l'heure.
Voilà, de vous faire venir en France dans un moment aussi crucial.
Ça a été dur s'arracher.
De s'arracher. D'ailleurs, l'un de vos confrères, le jeune Khaled Drareni, qui dirige le site.
La mort dans l'âme, il n'a pas pu venir.
Voilà, d'Info, Casbah Tribune, j'imagine qu'il a des effectifs un peu moins conséquents que les vôtres pour couvrir l'actualité. Donc on le salue, il est resté à Alger.
Tout à fait.
Et puis on termine l'émission et vous sautez dans le train et vous partez à Tours. Cher Omar Belouchet, je vous propose, avant de commencer, un hommage. Pierre Chevalier est mort. Pierre Chevalier était un immense, immense homme de télévision, de cinéma et de radio. À Arte, sa collection « Tous les garçons et les filles » a mis à l'écran Laurence Ferreira Barbosa, Olivier Dahan, Patricia Mazui, Cédric Kahn, Émilie Deleuze, Olivier Assayas, aux côtés de Chantal Akerman, Claire Denis ou encore André Téchiné. Pierre Chevalier, le passeur. Les artistes, toujours les artistes. Neveu du compositeur Pierre Chevalier, que vous entendez, lui-même fin mélomane, Pierre Chevalier a poursuivi ensuite sa carrière sur France Culture, aventurier du documentaire radiophonique. Il créa Sur les Docks. Avant de rejoindre la Villa Médicis à Rome, Pierre Chevalier, chaque jour habillé de bleu marine, riant à la vie malgré la maladie, quelle élégance cet homme-là. Et c'est si rare, l'élégance.
L'Instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Voilà, Pierre Boulez, qu'on entendait. Omar Belouchet, vous êtes donc mon invité ce matin dans une actualité algérienne brûlante. On a mille questions à vous poser. Mais d'abord, on va faire écouter à nos auditeurs, ici en France, comment la chaîne publique Canal Algérie présente les manifestations. Nous sommes fin février.
Des étudiants ont pu exprimer leurs opinions encadrées par un dispositif sécuritaire où les forces de l'ordre ont témoigné de beaucoup de sagesse avec les manifestants, ce qui témoigne encore une fois que l'Algérie est un pays démocratique et de liberté d'expression, un message clair pour ceux qui ont parié sur des dérapages et nuire à la sécurité et à la stabilité de l'Algérie.
Le président Bouteflika retire sa candidature, annule le scrutin et El Watan, votre journal, Omar Belouchet, titre « La dernière ruse de Bouteflika ». Il n'a échappé à personne le grand écart entre les différentes unes de presse ces dernières semaines, et notamment au lendemain de cette annonce, le grand écart entre les différentes analyses politiques, celles qu'on vient d'entendre sur Canal Algérie et la vôtre.
Ben, c'est des médias publics qui ne sont pas en phase avec ce qui se passe dans le pays, contrôlés par le gouvernement. Mm-hmm. Donc, ils sont tenus par des feuilles de route, des éléments de langage. Il s'agit de rester dans le temps de ce que souhaite le gouvernement.
C'est ça.
Et les médias publics, il faut le savoir, ils ont mis du temps à parler de tout cela.
Oui.
Ils ont mis vraiment quelques semaines à parler de tout cela. Et quand ils en parlent, on n'évoque jamais le cinquième mandat, on n'évoque jamais la question de la présidence. On parle de jeunes qui veulent des réformes politiques, tout simplement.
C'est ça. Et Nadia Madassi, par exemple, qui est une présentatrice très populaire en Algérie,
absolument.
Qui présente le 19h de Canal Algérie, s'est retirée de la présentation, s'est retirée de l'antenne parce que, à l'oreille, Mariette. On lui a demandé de ne pas citer la candidature d'un opposant à Bouteflika. Elle a choisi de se retirer de l'antenne. Il y a eu, les rédactions sont déchirées, elles l'ont fait savoir par lettre ouverte au sein des médias publics. Les têtes tombent les unes après les autres. Il y a eu un sit-in des journalistes. Il y a une dizaine de jours, il y a eu une dizaine d'interpellations. Ils ont ensuite été tous libérés. Alors Omar Belouchet, c'est important de le rappeler, ces derniers mois, depuis le mois d'octobre, on a assisté en Algérie à une vague spectaculaire d'arrestations de journalistes et de patrons de presse, notamment parmi les sites d'information. On va citer quelques noms, mais est-ce que cela annonçait finalement l'imminence de l'élection présidentielle ?
Les autorités ont accéléré effectivement cette répression. Sachant que de plus en plus les sites internet, le web, les blogueurs jouent un rôle aujourd'hui dans la formation de l'opinion publique algérienne, oui. Un rôle considérable. Il y a depuis quelques mois un mot d'ordre qui disait que Bouteflika n'est pas immortel. Les jeunes en ont marre, ils veulent d'autres têtes et c'est pris en charge par un certain nombre de médias traditionnels, de quelques journaux, et puis le web, d'une façon générale. Donc il y avait une politique forte de répression pour empêcher que la contestation se cristallise autour du cinquième mandat.
Alors, Ilyes Adibo, directeur du site Al Jazeer 24, à Constantine, arrêté également Abdelkrim Edgil Besh, je pense c'est que... Je vais écorcher son nom, directeur de la web radio Sarbacane. Ça a commencé en fait au mois d'octobre, le jour d'une journée nationale de la presse. Adlan Mella, directeur des sites Algérie Direct et Zahir Presse, est arrêté. Puis Abdou Semar, rédacteur en chef du site Algérie Part et son adjoint, on les entend.
Branle-bas de combat au tribunal de Bir Mourad Raïs. Venus de toute l'Algérie, 43 avocats pour défendre deux journalistes du site Algérie Part. Une mobilisation exceptionnelle après 17 jours d'incarcération contre un magnat des médias algériens, patron d'Enar TV et le préfet d'Alger, qui les accuse de diffamation et d'atteinte à la vie privée. Pour la défense, ce procès vise à faire taire cette presse en ligne.
L'Algérie ne sera jamais l'Arabie Saoudite. L'Algérie, le temps où les journalistes doivent mourir en prison et disparaître, ça n'existera plus. Maintenant, on va se battre pour la liberté d'expression. On va se battre pour la liberté d'expression jusqu'au bout.
Abdou Semar, il y a donc à peine quelques mois, rédacteur en chef du site Algérie Part. Il faut nous raconter, Omar Belouchet, parce que à l'origine de certaines des plaintes déposées contre ces journalistes arrêtés, il y a un groupe de médias privés qui s'appelle Enar Télé, dont le patron poursuit et traque ces journalistes.
Absolument, Enar est une chaîne derrière laquelle il y a un homme qui est affilié au clan présidentiel, très proche des frères du président. Et pendant de longues années, cette chaîne a été instrumentalisée pour critiquer les opposants, critiquer les journalistes. C'est un travail de sape qui dure depuis de longues années. Ouais. Elle bénéficie de subventions considérables à travers la publicité publique et également privée. Et c'est un quotidien au départ, ensuite une chaîne de télévision, donc qui effectue un travail de sape.
C'est ça.
Contre l'opposition, contre la presse, contre les femmes, contre les Kabyles, contre tout ce qui bouge dans notre pays. Ce que les autorités ne peuvent pas faire ouvertement, c'est dévolu à cette chaîne NHA. Et cette chaîne a été également instruite ces derniers mois, vous l'avez bien raconté, vous l'avez bien dit, a été instruite pour poursuivre des journalistes, des blogueurs, des internautes.
Ils les ont poursuivis en justice et puis ils les ont filmés, ces prévenus, ces journalistes, ils les ont filmés menottés dans l'enceinte du tribunal, ils les ont filmés jusqu'au fourgon cellulaire, ils ont diffusé les images en boucle, ça a énormément choqué et marqué l'opinion algérienne.
Absolument. Ce travail, d'habitude, c'est le gouvernement, c'est les autorités, les poursuites contre les journalistes. Les autorités ont compris que poursuivre directement des journalistes, des internautes, permanente des blogueurs, c'est une mauvaise publicité. Ça passe mal au niveau de l'opinion publique nationale et internationale. Donc, ce travail de sape est dévolu à cet individu aujourd'hui.
Parce qu'on a vu le président Abdelaziz Bouteflika prendre fait et cause pour la liberté de la presse. On l'a vu dans des discours officiels. On a vu en 2016, pour la première fois, la liberté de la presse devenir un principe constitutionnel en Algérie. Alors,
la pression, c'est des mots.
Ce ne sont que des mots.
Absolument. C'est un homme rusé. C'est un homme qui connaît un peu le paradigme au niveau international. On ne doit pas toucher à la liberté de la presse. Donc, il énonce des évidences. Il énonce quelques lignes comme ça de conduite.
Mais dans
les faits, c'est tout à fait le contraire qui est fait.
D'accord.
Dans les faits, c'est les blogueurs qui sont en prison pendant de longs mois.
Et pas que les blogueurs. Hein, Saïd Chitour, fixeur pour des médias anglo-saxons, 16 mois de prison pour soupçonner d'espionnage.
Tout à fait.
Et puis en 2016, votre confrère journaliste et cyber-militant Mohamed Tabal qui est mort.
Mort, on laisse mourir en prison.
42 ans.
Absolument.
42 ans.
Donc il y a les mots, mais aussi il y a les faits. Les faits, il y a une lutte implacable dans mon pays depuis de longues années à l'égard de tout ce qui bouge en matière de presse.
Alors un dernier mot sur Internet, parce que là il y a des syndicats de la presse et des ONG qui ont parlé carrément de rafles parmi les journalistes et les piliers de la presse en ligne en Algérie. Un dernier mot sur Internet. On a vu le site d'info TSA qui a été
tout à fait
coupé, interdit d'accès à la population algérienne.
Tout à fait.
Et puis on se souvient, il y a encore quelques mois, assez récemment, où le pouvoir a coupé Internet. La coupure de la honte, avait titré TSA à l'époque.
Tout à fait, absolument. C'est une politique délibérée de restreindre le travail des internautes, de restreindre un peu tout ce qui est sur Facebook, tout ce qui est sur Twitter, etc. Les autorités ont compris que pour valider, faire passer la candidature de Bouteflika et en faire un immortel, candidature pour un cinquième mandat, ils ont fait un travail de sape concernant la presse traditionnelle pendant de longues années. Et puis, il fallait contrôler un peu le web.
Contrôler l'incontrôlable.
Absolument, tout à fait.
Alors, je vais vous faire entendre un extrait du film de Malek Ben Saïd, tourné en 2014. 2014, figurez-vous que c'était la quatrième candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence algérienne. Le film est tourné dans la rédaction d'El Watan, votre journal, Omar Belouchet. Et on entend la stupéfaction de vos équipes à l'annonce de cette quatrième candidature.
Invisible pendant la campagne, Abdelaziz Bouteflika n'arrive plus à se déplacer seul, affaibli par un AVC.
C'est irréaliste qu'on vit avec cette campagne, c'est inimaginable.
Allez, on se met au boulot quand même, hein.
Peut-être que les gens considèrent que la candidature au quatrième mandat est une forme de violence qui appelle une autre.
Finalement, Bouteflika, ce n'est plus l'homme de la stabilité, mais l'homme de la division.
Non mais ça aurait pu être tourné il y a un mois,
oui,
en réalité,
absolument. Nous
ce
avions,
film de 2014.
À l'Ouattan, nous avions à l'époque, la rédaction a pris une position très très forte déjà, disant que le quatrième mandat c'est une très mauvaise chose pour le pays. On a eu raison, on l'a payé. On était déjà interdit de publicité publique depuis 1993 et 2014, des pressions fortes engagées à l'égard des entrepreneurs privés pour réduire. Nous avons perdu en quelques mois pratiquement près de 60% des recettes publicitaires.
C'est ça.
On a été obligé de faire énormément de sacrifices en matière de fonctionnement
et puis
de l'entreprise.
Il y a eu un feuilleton incroyable à El Watan. C'est la construction de votre immeuble.
Toujours bloqué.
Quand je vous ai reçu il y a deux ans, on avait vu des images insensées. C'est toute une rédaction qui essayait contre la police de rentrer dans ses bureaux et la police qui l'en empêchait.
On a été chassé par la police, interdit par la police, sans le moindre document. Et jusqu'à maintenant, le siège est toujours fermé et nous sommes toujours à la maison de la presse. C'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de vous dire, Bouteflika énonce des principes de respect de la liberté de la presse et fait tout le contraire.
Alors comment on peut expliquer à nos auditeurs français la fondation d'El Watan ? Comment on peut expliquer en fait la naissance d'un journal francophone indépendant et qui n'a cessé, hein, je l'ai dit, de rugir son indépendance au début des années 90, c'est-à-dire dans une période qui est concomitante à celle de la montée du Front islamique du Salut. Qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là et pourquoi vous avez choisi le français ?
El Watan a été lancé par d'anciens journalistes d'El Mujahid qui étaient déjà rebelles à l'époque. Mm-hmm. Dans les années 85-86. Et puis, il y a eu les événements d'octobre 88. Vous vous souvenez, les jeunes étaient dans la rue. Il y a une révolte populaire incroyable. Le président Chadli décide de produire une constitution de type libéral, de février 89, qui autorise le pluralisme politique, mais aussi la liberté d'expression et la liberté de la presse. On se décide, donc on est un groupe de journalistes, une vingtaine, on lance un journal privé que nous voulons toujours indépendant.
Et pourquoi le français à l'époque et pourquoi toujours la langue française aujourd'hui ?
Le français parce que nous sommes de culture française, nous travaillons dans El Mujahid en langue française. Et le français, laissez-moi vous dire que le français compte encore beaucoup en Algérie. Il y a une image qui n'est pas très claire ici par rapport au français.
Il y a eu un grand mouvement d'arabisation.
Absolument, mais en réalité le français garde ses racines. Ouais. Il y a près de 10 à 12 millions d'Algériens qui utilisent donc le français dans leur vie quotidienne, sur une population de 40 millions. Donc le français a une position encore très forte dans mon
pays.
Et
la presse francophone ?
La presse francophone, elle est importante. Elle doit tenir à 100 000 exemplaires.
Oui. C'est immense pays de presse, hein, l'Algérie.
Oui,
hein, une centaine de journaux imprimés.
Voilà. Et avec des tendances quand même très, très, très différentes. Hein. El Watan s'est construit à travers une résistance. Ouais. Les années 90, il y avait l'arrivée du Front islamique. On était les premiers à être menacés, hein, la rédaction d'El Watan, avant même l'arrêt du processus électoral, des appels à l'assassinat, etc. Comme vous le savez, il y a eu entre 93 et 97 près de 100 journalistes qui ont été assassinés en Algérie.
Ouais.
C'est des moments pénibles à...
Pas vous-même. Vous-même, vous avez été visé par des tentatives de meurtre.
Voilà, donc nous avons... El Watan s'est construit donc, dans une forte résistance à l'égard des islamistes, mais également à l'égard par rapport aux autorités. Mm-hmm. Au moment où les journalistes étaient assassinés, au moment où les journalistes d'El Watan étaient poursuivis, pourchassés, le journal a été entre 93 et 98 saisi, interdit de publication, 6 ou 7 fois. Nous avons été jetés en prison 6 mois après le début des assassinats. C'était en janvier 93.
La publicité publique, vous l'avez dit, vous
93.
Faites 100 maintenant.
93.
Et l'imprimerie, 93. Omar Belouchet.
L'imprimerie, le processus a été engagé parce que le journal a été saisi à plusieurs reprises. On s'est dit, on ne peut pas continuer à imprimer. Il y avait beaucoup de pression de la part des imprimeurs d'État. Mm-hmm. Et on a engagé, dès l'arrivée de Bouteflika, on a engagé des dossiers économiques. Donc ça passait par les banques. Et on a pu introduire des imprimeries qui ont conforté notre indépendance industrielle et partant notre indépendance éditoriale. Il faut que je vous dise une chose. Au moment où on était pourchassés par des islamistes, au moment où les autorités nous fermaient le journal, nous interdisaient la publicité publique, on a vite compris que si on veut obtenir, si on veut garder une indépendance éditoriale, nous devions impérativement, à partir de 92-93, maîtriser l'ensemble du processus économique. C'est-à-dire, on était éditeur de journaux.
Ouais.
Ensuite, on est devenu distributeur de journaux. Mmh. On a créé avec le Khabar, un grand journal arabe, des filiales de distribution pour récupérer rapidement le produit de la vente. Et on a parachevé ça par l'introduction d'imprimeries pour pouvoir avoir une indépendance industrielle. Il est rare dans le monde que des éditeurs soient des distributeurs de journaux et des imprimeurs. On a été contraints de le faire pour pouvoir sauvegarder notre indépendance, l'indépendance des journalistes. Et c'est pas une mince affaire, laissez-moi vous dire.
Non, non. Omar Belouchet, j'espère que vous aurez l'occasion de repasser par Paris et par l'Instant M. En attendant,
toujours un plaisir d'être avec vous.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation.
En attendant, à tous les Tourangeaux et à toutes les Tourangelles, 14h pour pouvoir discuter avec vous en chair et en os.
Absolument,
aux Assises du journalisme cet après-midi. Merci beaucoup d'être venu à Paris. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonette Villers.
Nos enfants.
Et oui, qu'il s'agisse d'argent, de morale, de mœurs, de politique, de religion, encore de mode de consommation, que faire quand nos enfants ne partagent plus du tout nos valeurs?
Bah, s'engueuler à table.
01 45 24 7000.